Alors, bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Donc, c'est un travail que je vais vous présenter, mais qui a regroupé un certain nombre de collègues. Donc, je n'ai pas été toute seule à y participer. Donc, je vais être leur porte-parole aujourd'hui. Donc, j'ai mentionné ici nos affiliations respectives. Donc, on vient de différents établissements. On a évidemment travaillé aussi avec pas mal d'industriels dans le cadre de différents projets que j'ai pas forcément mentionnés ici, des projets qui n'ont pas forcément financé ce travail, mais qui en tout cas qui nous ont donné l'occasion de discuter des cas d'application avec dans différents cas possibles. Donc, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est de vous parler de la sécurité dans l'Internet des objets et de la sécurité de bout en bout. Alors, bon, je vais préciser le sujet. Quel bouton? D'accord, merci. Donc, bon, je vais vous présenter tout de suite le contexte qui va préciser un petit peu mon discours. Et puis après, on parlera, vous verrez, de système de chiffrement et je vous expliquerai. Une fois qu'on aura parlé du contexte, pourquoi je m'intéresse à ces systèmes de chiffrement à flot. Et je conclurai avec une preuve de concept sur un cas applicatif réel. Donc l'introduction au contexte, bon, je sais pas, enfin, je pense que vous êtes tous bien familiers avec ce genre d'image. Donc on a aujourd'hui beaucoup d'objets de différentes natures qui sont connectés. Ce qui caractérise Internet des objets, c'est que ces objets sont très nombreux, sont pas forcément sécurisés et qui sont surtout très hétérogènes. Donc il y en a qui ont des ressources importantes, d'autres pas. Donc ressources en termes d'énergie, mais aussi des capacités de stockage de données, etc. Donc ce qui et puis ces objets sont connectés entre eux et ils sont aussi la plupart du temps connectés au cloud. Et donc on va se retrouver avec une situation avec d'un côté des objets très légers avec plus ou moins de puissance de calcul, souvent pas beaucoup. Et puis au centre, le cloud, avec des serveurs qui vont permettre de faire tourner des services, justement, de rendre des services à l'utilisateur par l'intermédiaire de ces objets. Donc les objets vont par exemple collecter des données qui vont être envoyées au serveur. Le serveur va faire des traitements dessus, donc pour faire de l'analyse de données de type big data, comme on l'a évoqué à Nice. Et puis renvoyer à l'utilisateur des informations qui peuvent, enfin, dont il a besoin, ou renvoyer à d'autres services des informations sur l'utilisateur. Donc il y a beaucoup de problématiques qui se posent dans ce contexte-là, notamment pour ce qui est de la sécurité. Moi, la problématique qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est la confidentialité des données qui sont du coup acquises et stockées sur ces petits objets et transférées sur les serveurs pour différentes raisons. Donc, la motivation de cette présentation, c'est de parler de moyens permettant d'assurer la confidentialité des données qui circulent dans ce contexte-là et de tenir compte de cette hétérogénéité de systèmes pour pouvoir assurer la confidentialité de bout en bout. Alors, il y avait des contraintes qui étaient déjà anciennes, enfin, anciennes, question d'échelle, mais il y a des contraintes auxquelles on était habitués, en tout cas, on s'était habitués depuis un moment. Et d'autres qui sont peut-être moins habituelles. Alors, je vais en mentionner une première qui est la légèreté. Donc, on a des objets qui ont parfois peu de puissance de calcul et on va vouloir faire tourner dessus des services ou des algorithmes qui peuvent être plus ou moins gourmands. Donc, quand on conçoit un algorithme un logiciel ou un matériel qui va être sur un petit objet comme ça, avec peu de ressources énergétiques, éventuellement peu de mémoire et peu de place, que ce soit au sens logiciel ou matériel, il va falloir faire rentrer les choses au chausse-pied. Et donc, là, ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir des algorithmes de chiffrement pour assurer la confidentialité. Et donc, on va s'intéresser aux techniques de chiffrement qui sont légères au sens où elles sont pas trop coûteuses à faire tourner, elles vont pouvoir tourner sur des petits objets. On va évidemment vouloir avoir cette possibilité d'embarquer ces logiciels ou ces matériels, mais que ça ne soit pas au détriment des performances. Donc, on voudrait des techniques qui permettent de chiffrer rapidement des quantités de données raisonnables. Ces objets, comme ils traînent un peu partout dans la nature, ils sont facilement peuvent facilement rentrer en possession d'attaquants. Et donc, ces attaquants peuvent les analyser. Alors, ils peuvent analyser des modèles similaires. Ils peuvent aussi voler l'objet qui va être la cible de l'attaque avec les données qui sont embarquées dessus et essayer d'extraire les données qui sont sur l'objet. Donc, on va devoir faire face à des attaques de type side channel, des injections de faute, etc. J'en reviendrai un peu dessus tout à l'heure. Et puis, on a quelque chose auquel on commence à s'habituer, mais qui néanmoins n'est pas encore complètement intégré dans les systèmes aujourd'hui. C'est toutes les techniques de calcul multipartie et de calcul sur données chiffrées, donc de crypto-calcul, permettant d'effectuer des traitements de données, des calculs sur des données sans les déchiffrer. C'est-à-dire, on a des données qui ont été chiffrées pour des raisons de confidentialité, pour éviter qu'elles ne traînent et que n'importe qui puisse les lire. Et on voudrait pouvoir les confier au cloud, par exemple, pour avoir accès à des services, mais sans pour autant vouloir révéler ces données. Donc l'utilisateur va vouloir garantir la confidentialité de ces données tout en ayant accès aux services proposés dans le cloud, par exemple. Et donc on veut pouvoir permettre à ces algorithmes de multiparty computation et de fully homomorphic encryption de s'exécuter. Alors ces techniques-là, elles sont pour l'instant très coûteuses, donc elles ne tournent pas en local sur des petits objets, on travaille à les faire tourner sur des serveurs, sur des gros serveurs. Mais ce qu'on voudrait, c'est que les systèmes de chiffrement qu'on utilise, ils puissent passer l'échelle du petit objet jusqu'au cloud. C'est-à-dire que si on en chiffre d'un côté avec une certaine technologie, ben c'est la même technologie qui va servir de l'autre côté, que ce soit à déchiffrer ou à permettre le calcul sur les données. Donc on va avoir besoin de systèmes qui vont passer à l'échelle, ici, qui vont pouvoir être déployables sur des petits objets, mais qui vont pouvoir s'interfacer, il faut absolument qu'ils puissent s'interfacer avec les services qui sont proposés dans le cloud. Donc on a cette contrainte, cette troisième contrainte qui est peut-être nouvelle pour vous, enfin je ne sais pas, mais en tout cas qui est sur une des contraintes qui est plus émergente par rapport aux contraintes précédentes qui sont déjà regardées depuis un petit moment. Alors l'objet de cette présentation et de l'article qu'on a proposé, c'était de montrer que les systèmes de chiffrement par flow sont très intéressants dans ce contexte-là. Alors pour ça, je vais rappeler un petit peu ce que c'est qu'un chiffrement par flow. Donc un chiffrement, déjà, c'est une technique qui permet de modifier les données pour les rendre incompréhensibles par qui n'a pas accès aux moyens de déchiffrement. Et parmi les systèmes de chiffrement, on a des systèmes de chiffrement à clé publique et des systèmes de chiffrement à clé secrète. Là, les systèmes dont je vais parler, ce sont des systèmes à clé secrète. Donc c'est la même clé qui sert à chiffrer et à déchiffrer. Et ces techniques sont nécessaires aujourd'hui pour assurer la confidentialité des données. D'accord ? Donc elles sont utilisées, y compris en partenariat avec des algorithmes à clé publique. Mais les techniques à clé secrète sont aujourd'hui encore et toujours d'actualité et sont toujours primordiales pour protéger les données, que ce soit pour du stockage, de la transmission, etc. Donc, parmi les systèmes à clé secrète, il y a les systèmes de chiffrement par bloc, comme l'AES par exemple, que je pense que vous connaissez tous au moins de nom. Et puis il y a des techniques peut-être un peu moins connues de systèmes de chiffrement par flow. Alors la différence, c'est que le chiffrement par bloc, ça prend un bloc de données, ça le chiffre, d'accord, et puis ça donne un bloc de données chiffré en sortie. Et que les techniques qui sont derrière, il y a des boîtes S, il y a tout un tas de choses derrière. Et dans les systèmes de chiffrement par flow, on a souvent une structure un peu différente. Le chiffrement par flow, il a comme caractéristique de prendre les données à la volée, bit par bit, on va dire, et puis de les traiter au fur et à mesure. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir une certaine quantité de données pour le traiter, on peut le traiter à la volée. Et donc, il fonctionne de la manière suivante. Donc on a un objet qui va générer ce qu'on appelle un keystream, donc une chaîne de chiffres, une suite de chiffrement. Et cette suite de chiffrement, donc imaginons qu'on travaille en binaire, c'est donc une série de 0 et de 1, elle va être ajoutée bit par bit au message qu'on veut chiffrer, et puis ça constitue le message chiffré. Donc on a une suite de 0 et de 1 qui est le message clair, on a une suite de 0 et de 1, c'est la suite chiffrante, on les additionne, ça nous donne une autre suite avec des 0 et des 1, qui est le message chiffré. Et ce générateur de suite de chiffrement, c'est un automate avec un état interne, donc c'est un automate déterministe, qui fonctionne de la manière suivante. Donc il y a un état interne qui va se mettre à jour avec une fonction de mise à jour régulièrement, donc à chaque top d'horloge on met à jour l'état interne du système, et on a une fonction f qui calcule à partir de l'état interne qu'est-ce qu'on va sortir ici pour constituer la suite de chiffrement. Et puis on a une procédure d'initialisation qui prend en compte une clé secrète et puis un vecteur d'initialisation qui permet de faire varier le comportement du générateur à chaque fois qu'on l'utilise, même si c'est la même clé qui peut éventuellement servir. Et donc ça permet d'initialiser le système. Donc on a une phase d'initialisation, et une fois que c'est initialisé, hop, on fait tourner, et on ressort des 0 et des 1. Donc l'avantage des systèmes de chiffrement par flow, il y a plusieurs types de chiffrement par flow qui existent. Il y a des systèmes qui sont ce que j'appelle nativement à flot, c'est-à-dire des systèmes qui ont été conçus comme ça, donc avec des registres à décalage, des choses comme ça, on en parlera un petit peu après. Et puis on a des schémas qui sont artificiellement à flot, par exemple des schémas par bloc qui sont utilisés dans notre compteur. Ça simule un comportement de chiffrement à flot, mais derrière, ce n'est pas les mêmes outils qui sont déployés, donc ce n'est pas les mêmes vitesses de chiffrement, etc. Donc des attaques sur ce type de schéma, ben, c'est comme sur tous les schémas, on essaie d'attaquer le plus possible pour voir si ça tient la route. Donc il y a des attaques qui peuvent être spécifiques pour certains types de schémas, selon les objets qui les constituent. Et puis il y a des attaques plus génériques qui peuvent s'attaquer de la même manière à tous ces schémas-là. Et donc quand on conçoit un schéma, évidemment, ben, on le met à l'épreuve pendant le plus largement possible. Donc on le publie et on espère qu'un maximum de gens vont essayer de l'attaquer pour voir s'il tient la route. Alors justement, il y a eu donc les schémas de chiffrement par flot, ce sont des bons candidats pour la crypto légère parce que souvent, donc surtout pour les schémas qui sont nativement à flot, donc qui sont conçus directement pour être du chiffrement par flot. Ce sont les objets qui sont manipulés à l'intérieur et les manières de les manipuler sont extrêmement rapides. Et donc, c'est des schémas qui ont des très bons débits de chiffrement, qui ont un coût d'implémentation très, très faible. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Et donc, ils sont assez adaptés à de la crypto légère. Ils sont faciles à embarquer, faciles à implémenter en software, en hardware aussi, donc en logiciel, en matériel. Et puis, comme pour beaucoup d'autres systèmes en cryptographie, il y a eu des appels internationaux qui ont été lancés pour stimuler la recherche dans le domaine et en espérant qu'il y ait beaucoup de propositions différentes qui soient faites et que ces propositions puissent toutes être évaluées le plus largement possible. Donc le projet eStream qui dépendait d'un projet européen, eCrypt, a lancé en 2005 une compétition, un appel de système de chiffrement par flot. C'est une compétition qui a eu lieu entre 2005 et 2008, donc ça peut paraître loin maintenant, c'était il y a 10 ans. Sauf que depuis, il y a eu deux profils d'implémentation qui ont été proposés. Donc, on a demandé aux gens de proposer des nouveaux systèmes de chiffrement à flot dans un profil, soit logiciel, soit matériel. Et donc, évidemment, ces propositions ont été publiques, d'accord ? Elles ont été publiées à la fois dans des articles de recherche, mais aussi sur le site du projet. Le code a été mis à disposition, des benchmarks ont été réalisés, etc. Évidemment. Et puis, ces systèmes ont été mis à l'épreuve dans le sens où tous les chercheurs qui pouvaient avoir envie de jouer ont pu essayer de les attaquer et de voir s'ils étaient solides. D'accord ? Donc c'était une compétition qui s'est faite de manière la plus ouverte possible. Et donc, en 2008, le projet, au vu des trois premières années d'attaque et d'essais, etc., d'évaluation, sur les 30 candidats initialement soumis, on a retenu 7. Donc ils sont accessibles sur la page du projet. Donc il y en a 4 qui ont été retenus dans le profil logiciel et 3 dans le profil matériel. Et cette évaluation, elle continue aujourd'hui, hein, ça s'est pas arrêté, dans le sens où les chercheurs continuent à chercher des attaques, à mettre à l'épreuve les systèmes, etc. Et le projet continue à vivre, c'est-à-dire que s'il y a des nouvelles attaques qui arrivent, qui vont mettre à mal un système parmi ceux-là, alors il sera retiré de la liste des systèmes retenus comme sérieux et solides. Et donc, c'est un projet qui est encore très vivant, et donc il y a en ligne sur le site du projet des rapports d'évaluation à différentes échéances qui tiennent compte des avancées qu'il y a pu avoir au niveau cryptanalyse. Donc moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est que parmi ces systèmes de chiffrement à flot, il y en a un en particulier sur lequel on s'est penché, donc Trivium, qui avait été proposé dans la catégorie matérielle, donc avec cet objectif vraiment de crypto légère. C'est un système qui a beaucoup d'avantages, c'est pour ça qu'on l'a choisi pour l'étude qu'on a menée. Il a été standardisé également, et donc je vais vous le présenter un petit peu juste après, je vais vous expliquer un peu quels avantages il a dans le contexte d'une sécurité Internet des objets de bout en bout. Alors Trivium, il ressemble à ça. Alors de ce que disent les concepteurs de Trivium, leur objectif, c'était de faire un chiffrement à flot qui soit le plus léger, mais aussi le plus simple possible à expliquer, à comprendre, à implémenter, sans pour autant rogner sur la sécurité. C'est-à-dire jusqu'où on peut aller en termes de simplicité sans mettre en jeu la sécurité. Donc c'est un système qui s'appuie sur trois registres à décalage et rétroaction linéaire qui ont des longueurs de 93, 84 et 111, ce qui nous fait un état interne de générateur de 288 bits, une clé secrète de 80 bits et un vecteur d'initialisation IV donc qui permet facilement de refaire du chiffrement éventuellement de mêmes données avec des mêmes clés, mais en modifiant le comportement du générateur pour qu'on n'utilise jamais deux fois la même suite chiffrante. Donc ce vecteur IV, il a 80 bits ici. Donc on a ces trois registres ici, là, qui produisent, donc qui tournent avec une rétroaction linéaire, qui sont synchronisés et dans certaines parties des sorties sont ensuite ajoutées entre elles pour produire ce que j'appelais ZI ici. ZI, c'est la suite chiffrante qui va servir de masque pour chiffrer les données. Alors j'ai mis en rouge qu'il n'y a aucune attaque meilleure que la recherche exhaustive de clés qui a été mise à jour pour ce schéma dans sa version complète. Alors version complète, ça veut dire ce que je vous montre là, mais ça veut dire aussi la manière de l'utiliser. Donc quand il a été spécifié, on n'a pas juste eu un schéma de ce type-là. Il y a un certain nombre, une fois qu'on a rempli les registres avec l'initialisation, il faut le faire tourner un certain nombre de fois pour initialiser le processus et éventuellement retirer certains biais dans le comportement de ce qui peut être produit. Donc je crois que c'est 1152 fois, il faut le faire tourner. Et une fois qu'on a fait cette étape d'initialisation, ça y est, on peut lancer le chiffrement. Donc les attaques qui ont été proposées, qui sont éventuellement meilleures que la recherche exhaustive de... Enfin, qui sont... Pardon. Sur la version complète, avec ces recommandations d'initialisation, il n'y a pas d'attaque meilleure que la recherche exhaustive de clés, qui a été mise à jour. Sur des versions plus réduites, donc si on n'utilise pas, si on respecte pas les recommandations... Il y a quelques attaques qui ont été proposées, mais qui restent avec des attaques en 2 puissance 95, je crois, la meilleure. Et donc, qui sont aussi au-dessus de... Enfin, qui sont en plus de l'ordre de 2 puissance 90, 95. Donc, c'est un système qui, aujourd'hui, est considéré comme tout à fait sûr. Comme je le disais, il a été validé par ce projet-là, il a été aussi standardisé. Et donc, il a l'avantage, le premier avantage qu'il a, c'est que, on va le voir, hein, donc je vais passer en revue un certain nombre de contraintes qu'on a à prendre en compte quand on veut faire de la sécurité de bout en bout dans le contexte que j'ai présenté. La première contrainte, c'est d'avoir un débit de chiffrement qui soit rapide à la fois en implémentation matérielle et en implémentation logicielle. Je vais revenir un tout petit peu dessus dans le transparent suivant. Des contraintes d'implémentation aussi facilitées si possible dans le cadre d'environnements très contraints, d'objets très petits avec des ressources très limitées sur des architectures particulières. Ensuite, on abordera la résistance face à des attaques de type attaque physique. Et puis, je vous parlerai en dernier, c'est peut-être le point que je développerai le plus, de l'interfaçage entre ce type de système et les techniques de calcul sur données chiffrées qu'on pourrait déployer dans le cloud. Donc en termes de débit, donc c'est un candidat qui avait été proposé dans la catégorie matérielle. Néanmoins, il a aussi de très bonnes performances en logiciel. Donc il a beaucoup d'atouts de son côté. Il y a moyen d'optimiser l'implémentation avec du bit slicing, par exemple, pour ceux qui connaissent. Et donc il y a moyen de traiter en parallèle plusieurs clés ou plusieurs messages et d'accélérer le chiffrement de cette manière-là. Donc là, j'ai donné à titre d'exemple des débits de chiffrement avec différents paramètres de bit slicing, donc avec des débits de chiffrement qui vont de ici, bon, pour les données que j'ai proposées, 1 gigabit, 7 gigabit, 22 gigabit. J'ai mis en comparaison d'autres performances qui étaient obtenues sur des architectures similaires dans les conditions les plus équitables possibles, par exemple avec de l'AES. Bon, évidemment, ceux qui connaissent les systèmes de chiffrement savent bien qu'entre un système par flux, un système par bloc, en général, le système par flux est beaucoup plus rapide. Mais ça donne une idée du gain qu'on peut avoir en termes de débit entre les deux types de systèmes. Vous me direz, l'AES, c'est 128 bits de clés. Là, ici, on n'en a que 80. Donc, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose. Néanmoins, je mentionnerai à la fin de l'exposé qu'il y a des variantes de ce système qui existent en 128 bits, donc qui peuvent rivaliser avec l'AES en termes de sécurité, avec des débits peut-être un petit peu moins élevés que celui-là, mais pas tellement moins. Et puis, on peut avoir des implémentations matérielles aussi intéressantes, évidemment, puisque c'était la catégorie dans laquelle le système était présenté. Et donc, par rapport à ses concurrents de la même, à d'autres concurrents du même concours, il a aussi une capacité à être implémenté qui est particulièrement intéressante. Il a des débits vraiment, vraiment, vraiment très intéressants. Il y a des implémentations qui ont été faites aussi sur des architectures spécifiques. Je donne un exemple avec une implémentation Arduino, mais il y en a plein d'autres qui ont été testées, puisque ce schéma a été proposé il y a quand même 10 ans maintenant, donc il y a beaucoup de gens qui ont essayé pas mal d'implémentations. Et donc là, j'ai mis l'exemple de l'implémentation Arduino, mais sur lequel on arrive à avoir des débits de 150 kilobits par seconde. Sur un Arduino, un Arduino Nano, donc c'est un petit, hein, évidemment. Donc c'est un schéma qui, d'un point de vue débit, il remplit le cahier des charges, il n'y a pas de problème. Ensuite, en termes d'attaques physiques, donc les attaques physiques, il y en a de plusieurs sortes. Donc quand un attaquant a accès à un objet qu'il souhaite mieux comprendre, pour mieux comprendre soit le savoir-faire qui est dedans, soit les données qui sont stockées dedans, on a plusieurs manières de procéder. Soit on peut faire du reverse engineering, donc analyser le logiciel embarqué, analyser les composants matériels pour essayer de comprendre, si ça n'est pas public, comment l'objet fonctionne. Donc ça, c'est une technique très invasive parce qu'on désosse complètement l'objet, on le dissèque complètement, que ce soit au niveau logiciel ou matériel. On a des techniques que j'ai qualifié de non-invasive, de type side-channel attack. Donc side-channel attack, c'est mesurer éventuellement des radiations, des phénomènes physiques qui sont liés à l'exécution d'un certain nombre de choses sur l'objet, et en mesurant des champs électromagnétiques ou la consommation énergétique, on peut savoir ce que fait l'objet. On peut essayer de déduire ce que fait l'objet à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il est en train de traiter comme données, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec, etc. Alors c'est particulièrement critique quand on s'intéresse au chiffrement, parce que si le système de chiffrement n'est pas très bien implémenté, ça peut laisser transparaître à quel moment le bit de la clé c'est un 0, à quel moment le bit de la clé c'est un 1. Donc évidemment, il y a des contre-mesures, hein, ce genre de choses, mais c'est un peu la course, comme toujours, en sécurité. Il y a des nouvelles attaques, des nouvelles contre-mesures, des nouvelles attaques, des nouvelles contre-mesures, etc. Donc j'ai mis un petit exemple à côté, vraiment juste pour illustrer, des missions électromagnétiques qu'on peut observer, par exemple, sur l'exécution de Trivium sur l'Arduino. Et donc, on peut isoler le moment qui concerne l'exécution de Trivium sur l'objet. Et une fois qu'on fait un zoom, on peut essayer de voir quelles sont les différentes étapes de l'exécution de Trivium. On peut les isoler dans le temps. Et après, on peut, en zoomant, ça permet de cibler l'attaque. Ensuite, une attaque de type injection de faute, par exemple, où on va provoquer des fautes ou provoquer des réactions un peu bizarres sur l'objet pour le forcer à révéler les données qu'il est en train de traiter à ce moment-là. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet vraiment de l'exposer, de traiter ce genre d'attaque, mais en tout cas, ce sont évidemment des attaques qui sont importantes et qui ne sont pas du tout négligeables, surtout dans le cadre de l'Internet des objets, où l'attaquant, encore une fois, peut avoir accès facilement aux objets. Donc les systèmes de chiffrement par flot en général, et Trivium en particulier, peuvent être protégés contre ce type d'attaque, avec des techniques des contre-mesures que je qualifierais de classiques pour ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Donc on a donné un peu plus d'explications dans l'article si ça vous intéresse. Il y a d'autres articles auxquels on fait référence qui traitent de ça plus en détail sur ce cas d'étude particulier. Moi, je ne vais pas en dire plus sur cet aspect-là aujourd'hui. Je vais passer à la dernière contrainte qui est ce que j'appelle le transchiffrement vers du chiffrement complètement homomorphe. Alors je vais plus détailler cette partie, d'abord parce que c'est celle que je connais le mieux, évidemment, mais parce que aussi, c'est quelque chose peut-être de plus nouveau pour vous. Alors, ce schéma-là, je vais en reparler dans deux transparents, donc je vais y revenir rapidement. Je vais d'abord parler de ce que c'est que le chiffrement complètement homomorphe et de à quoi ça peut servir. Alors, la plupart d'entre vous savent peut-être ce que c'est, je ne sais pas. L'idée derrière ces techniques de chiffrement, c'est d'avoir les moyens de faire du calcul sur des données, donc sans les déchiffrer. Donc, vous avez des données qui sont stockées quelque part. Elles sont chiffrées parce qu'on ne peut pas les révéler. Mais souvent, aujourd'hui, avec les techniques de chiffrement actuelles, si vous avez besoin de faire un traitement dessus, ben vous les déchiffrez le temps de faire le traitement, et puis après, éventuellement, vous les rechiffrez. Mais en tout cas, pour faire le calcul, vous avez besoin de les déchiffrer. Donc l'objet des techniques de chiffrement homomorphe, c'est d'effectuer des calculs sans avoir à déchiffrer les données, pour avoir le résultat dont on peut avoir besoin, sans pour autant mettre en jeu la confidentialité des données. Alors, quand je dis avoir un résultat, le résultat, il est dans une technique de ce type-là, il est chiffré. C'est-à-dire que le contexte, c'est qu'on a une technique de chiffrement qui va chiffrer les données d'une certaine manière. Donc c'est un chiffrement qui n'est pas du tout anodin, hein, c'est une technique de chiffrement spécifique. et de telle sorte que derrière, on ait moyen d'effectuer des opérations sur ces données pendant qu'elles sont chiffrées, et le résultat de ces opérations, lui, il est chiffré aussi. D'accord ? Et pour avoir accès au résultat, il faut le déchiffrer. Alors, je vais vous illustrer le cas d'étude peut-être le plus parlant, enfin, ils sont tous parlants, mais celui sur lequel je vais m'appuyer ici. Donc, vous avez des données sur un petit objet qui vous appartient, et des données qui vous sont personnelles et que vous n'avez pas envie de laisser traîner dans la nature. Donc, vous décidez de les chiffrer, mais vous voulez profiter d'un service qui est dans le cloud, que ce soit pour un diagnostic médical, que ce soit une analyse d'image, que ce soit, je sais pas... Enfin, bon, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être... On peut penser à la sphère privée en termes personnels, mais on peut aussi penser à une entreprise qui a des données, qu'elle veut, et elle veut accéder à des techniques de big data, d'analyse, etc. Elle n'a pas les moyens de le faire, elle n'a pas forcément le savoir-faire, elle va déléguer ce calcul sur ses données à un fournisseur de services, mais elle ne veut pas révéler les données en clair au fournisseur. Donc l'idée derrière, c'est qu'on chiffre les données avec ce qu'on appelle un FHE, donc un chiffrement complètement homomorphe, et les données arrivent chiffrées sur le serveur, et le serveur va être capable... avec les techniques de chiffrement en question, d'effectuer des calculs sur ces données. Donc sans savoir sur quelles données il fait le calcul, il obtient un résultat qui est chiffré, donc lui n'a pas accès au résultat en clair. Il renvoie le résultat à l'utilisateur, l'utilisateur, lui, a les moyens de déchiffrer le résultat et d'avoir accès au résultat en clair. Ce qui est important, évidemment, c'est que le résultat qu'il obtient ici, c'est le résultat qu'il aurait obtenu s'il avait effectué le même algorithme sur les données en clair, d'accord ? Il a simplement déporté le calcul, soit parce qu'il n'a pas la puissance de calcul, soit parce qu'il n'a pas le savoir-faire algorithmique pour pouvoir faire ce type de traitement, ou encore parce que peut-être ce traitement nécessite d'autres données qui viennent d'ailleurs et que plusieurs personnes sont connectées à ce même cloud et apportent des données qui peuvent être intéressantes pour, par exemple, un diagnostic médical. Donc c'est des techniques, je ne vais pas vous faire l'historique, mais c'est des techniques qui sont assez récentes, qui aujourd'hui sont assez gourmandes en calcul, sont assez gourmandes en mémoire. Il y a beaucoup de progrès qui est fait, il y a énormément, vraiment, on a beaucoup de progrès qui ont été faits depuis que ça a commencé à émerger en 2009. Et évidemment, l'impact, il est énorme en termes de protection de la vie privée et protection des données, y compris données sensibles pour les administrations, pour les industriels, etc., pour évidemment tous les contextes. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Je ne vais pas vous montrer trop de mathématiques. Donc, ce qui se passe derrière tout ça, c'est qu'on a le fait qu'un programme informatique peut être écrit comme un circuit booléen avec des portes et des portes OU, je vais dire pour simplifier. Et puis que ça peut se réécrire avec de l'algèbre, en algèbre binaire. Et en fait, on a des techniques de chiffrement qui s'appuient sur l'algèbre mathématique, donc binaire. Et qui vont permettre de remplacer, donc une fois que vous avez un programme informatique, n'importe lequel, même avec des tests sur les données, etc., vous le transformez en un circuit booléen, avec des portes et des portes OU, et après vous remplacez ces portes et ces portes OU par des techniques d'addition sur données chiffrées, de multiplication sur données chiffrées, et ça vous donne un circuit que vous pouvez évaluer sur des données chiffrées pour faire exactement ce que fait votre programme, mais le faire sur des données chiffrées. Alors c'est un domaine qui est en effervescence parce que ça a beaucoup bougé ces dernières années, donc je ne vais pas vous faire un état de l'art académique là-dessus. Ce qui est très délicat dans ce schéma-là, c'est que la profondeur multiplicative du circuit qu'on a là, le nombre de multiplications qu'on va devoir enchaîner en profondeur, est critique en termes de taille de données à gérer, parce que les données vont grossir en taille au fur et à mesure qu'on va avoir faire des traitements, et en termes de temps de calcul. Alors là, j'ai mis quelques exemples en fonction de la profondeur multiplicative qui est donnée ici, de la taille des données, comment elle augmente. Donc pour un bit chiffré, on va avoir 1000 bits si on veut avoir une profondeur multiplicative de 20, pour le traitement qui nécessite un enchaînement de 20 multiplications, on va dire. Et puis ça, on voit l'augmentation du temps de calcul aussi pour une porte E, selon si elle est profonde ou pas dans le graphe binaire. Donc le gros problème qu'on a, c'est que la taille des données explose, parce que là j'ai dit multiplié par 1000, mais ça peut être 10 000, 100 000, 1 million, ça dépend de l'application, ça dépend de la profondeur de votre circuit, et donc de la complexité de l'application que vous voulez faire tourner sur vos données. Donc le gros problème qu'on a, on a un problème au niveau du serveur ici, qui va être que les données vont être grosses et qu'elles vont être lourdes à manipuler. Bon, c'est un coût de stockage. Mais on a aussi un énorme problème, c'est que le petit device ici, il va devoir générer ses données, donc potentiellement des données volumineuses, et il va devoir les envoyer. Donc on a deux problèmes de stockage. On a le stockage dans le cloud, ça c'est pas tout à fait l'objet de mon exposé aujourd'hui, Et on a surtout le problème pour le petit objet qui est là, et qui, lui, ne sait pas bien gérer ça. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, c'est que, en fait, les techniques de chiffrement par flow peuvent s'interfacer avec ça et soulager et résoudre ce problème. Alors, comment ça peut résoudre ce problème ? En fait, l'idée, c'est qu'ici, au lieu de chiffrer avec du technique de chiffrement type FHE, on peut chiffrer avec un chiffrement symétrique, standard, je vais dire, donc je vais dire l'AES pour que ça vous parle, mais ça peut être le système Trivium dont j'ai parlé juste avant. Et à ce moment-là, la taille des données reste la même, donc on n'a pas de coût à payer en termes de taille de données à ce niveau-là, au niveau du petit objet. Donc lui, il n'a pas besoin de plus de mémoire, et il n'a pas besoin d'envoyer... Du coup, il envoie un volume de données qui est le même qu'avec un algo de chiffrement symétrique standard, et donc une quantité de données qui est tout à fait raisonnable. Et ce qui va se passer, c'est que sur le serveur, par contre, on va avoir une procédure de transchiffrement, c'est pour ça que je parlais de transchiffrement, qui est illustrée dans le transparent juste après, où l'idée, c'est que le serveur ici, il va recevoir d'un côté des données chiffrées avec, par exemple, Trivium, et il va recevoir une autre donnée, qui est la clé qui a servi à chiffrer les données ici, par exemple, avec Trivium, la clé secrète K, et cette clé, elle est chiffrée avec un FHE. Donc là, il y aura une petite augmentation de volume de données, mais sur une clé qui est petite, donc c'est pas très grave. Et en recevant cette clé chiffrée avec un FHE, il arrive à les combiner, à combiner ces données chiffrées avec Trivium et la clé Trivium chiffrée avec un FHE pour produire un chiffré FHE du message d'origine. C'est-à-dire qu'il transchiffre, il prend un chiffré de M et le transforme en un autre chiffré de M, mais sans jamais déchiffrer. Donc il transforme d'un chiffré en un autre chiffré, mais sans passer en clair, jamais. Et donc, l'enjeu derrière ça, c'est de trouver à la fois, évidemment, les bons algos de chiffrement FHE, mais c'est aussi de trouver quels algos de chiffrement symétrique on peut mettre là pour que ça marche bien ici. Comme je vois que le temps passe, je vais accélérer la fin. Du coup, je vais sauter quelques transparents, mais les transparents sont peut-être disponibles, je ne sais pas, sur la plateforme après, mais la conclusion, de toute façon, sera la même. Donc, ce qui est important à comprendre ici, c'est que les algorithmes qui ont été testés comme système symétrique ici, évidemment, d'abord le premier qui a été testé c'était l'AES. L'AES est beaucoup trop complexe à implémenter pour s'interfacer avec du FHE, parce que l'interfaçage ici veut dire qu'on va devoir exécuter l'algo de chiffrement en homomorphe, et l'AES est beaucoup trop, une profondeur multiplicative beaucoup trop grande, et donc ne s'adapte pas du tout à ce contexte-là. Donc il y a d'autres schémas qui ont été regardés, notamment des algorithmes légers en block ciphers, donc en chiffrement par bloc, comme Simon et Prince, mais qui reste trop lourd. Il y a des systèmes de chiffrement par bloc dédiés qui ont été conçus exprès pour s'interfacer le plus légèrement possible avec ça, comme l'OMC, mais qui souffrent de petites faiblesses, donc qui font que sa sécurité aujourd'hui n'est pas encore complètement clairement établie. Et puis ce qui est intéressant, c'est que en abordant la question avec l'idée d'utiliser un système de chiffrement à flot, on est retombé sur l'idée qu'on peut essayer de faire un maximum de choses offline pour préparer le traitement de transchiffrement, notamment avec du chiffrement à flot. On peut générer du keystream à l'avance. Et ensuite, la partie online, qui nécessite l'interaction avec le serveur, peut se faire le plus rapidement possible. Et donc l'intérêt d'utiliser un système de chiffrement à flot est vraiment important ici. C'est vraiment un gain par rapport à du chiffrement par bloc. Donc je ne vais pas redétailler le transparent là. Et aujourd'hui, donc on a fait des tests avec Trivium, et il se trouve que Trivium est particulièrement intéressant dans ce contexte-là, parce qu'il a une profondeur multiplicative qui est très faible par rapport aux autres candidats possibles. Et donc il a plusieurs avantages qui sont à la fois une légèreté, un débit, et aussi la sécurité, parce que, bon, certes, il a 10 ans, mais quand même en 10 ans, on n'a pas réussi à faire mieux pour l'attaquer que de faire de la recherche exhaustive de clés. Donc ça ne veut pas dire que personne trouvera une attaque qui marche mieux plus tard, mais on a quand même un niveau de confiance dans ce schéma qui est quand même pas négligeable. Donc je vais conclure l'exposé là-dessus. Dans son arrivée, alors j'avais quelques performances éventuellement dont on pourra revenir, sur lesquelles on peut éventuellement revenir dans les questions s'il y en a. On a fait des tests avec plusieurs profondeurs multiplicatives parce qu'en l'implémentant avec le bit slicing, on peut jouer sur les profondeurs multiplicatives. Et donc sur des temps de calcul qui permettent d'arriver à une plateforme expérimentale réelle avec un device qui est ici un smartphone ou une tablette légère et avec une application par exemple de diagnostic médical derrière qui dit en fonction d'un certain nombre de facteurs si vous êtes un homme, une femme, votre âge, si vous fumez, si vous buvez beaucoup, si vous avez du diabète, de l'hypertension, etc. qui peut vous dire si vous avez des risques cardiovasculaires importants ou pas. Et avec cette plateforme-là, on arrive à faire, entre le moment où on appuie sur la tablette avec toutes les données rentrées, le moment où ça commence à chiffrer, où ça envoie les données, ça traite sur le serveur, ça revient, c'est déchiffré, on arrive à le faire en 3 secondes, 4 secondes, pardon, en prenant tout en compte, avec un niveau de sécurité qui est équivalent à 128 bits de clé. Alors, 128 bits de clé, alors que je parlais d'un Trivium à 80 bits. Alors, pourquoi? Parce qu'on a proposé une variante de Trivium qui, elle, permet de s'étendre à 128 bits et qui s'appuie sur le même concept au niveau conception interne et qui, donc, permet une évaluation de sécurité similaire. Et donc, a priori, le schéma Trivium, qui est cette variante, présente les mêmes garanties de sécurité que le schéma Trivium d'origine. Donc, je vais conclure l'exposé en disant que on a souvent tendance à penser enfin, chiffrement par bloc quand on pense à chiffrement symétrique, parce qu'on a l'AES qui est standardisé, qui a été mis à l'épreuve, etc. Et c'est pas forcément un mauvais réflexe, mais dans des contextes comme l'Internet des objets, où on a à faire face à des contraintes très diversifiées, avec à la fois d'un côté des objets très légers et très contraints, et de l'autre un interfaçage, par exemple, avec des techniques de FHE, dans ce cas-là, le meilleur choix, c'est pas de l'AES, c'est de prendre un système de chiffrement à flot. Donc, on s'était focalisé sur Trivium parce qu'il remplissait le cahier des charges pour tous les aspects qui nous semblaient importants. Comme je le disais, nous, on avait proposé de notre côté une variante de Trivium qui s'appelle Crivium. Il y a aussi une autre variante qui s'appelle Trivia qui a été proposée en 128 bits. Voilà. Et donc, il faut avoir ça en tête. C'est des techniques qui sont potentiellement intéressantes dans le contexte applicatif, avec une sécurité qui est relativement maîtrisée quand même, puisque Trivium, je vous le disais, ça fait 10 ans que les gens essayent de l'attaquer et que ça tient la route. Et puis, ce sont des objets, enfin des algorithmes qui sont publics, qui sont dont le code est disponible en open source. Donc, tout le monde peut essayer de jouer avec pour essayer de les intégrer dans les applications. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.
On va prendre une question dans la salle, parce que là, on ne va pas prendre trop de retard. Pas de main qui se lève, j'ai dû refroidir un peu là.
Un, deux, ok, super. J'ai une question profane parce que je suis pas très bon en crypto. Le principe du chiffrement homomorphe, c'est de s'assurer que les données qui sont sur le serveur ne sont jamais en clair, donc ne puissent pas être fuitées. Or, dans le schéma que vous montriez, vous envoyez la clé au serveur pour faire le transchiffrement. Et là, du coup, si on a la clé, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas récupérer les données en clair?
Alors,
J'ai pas compris en fait.
la clé qui servait à chiffrer ici, elle n'est pas envoyée en clair au serveur, elle est envoyée avec un chiffrement homomorphe qui dépend d'une clé. Lui, il n'a pas la clé privée pour déchiffrer ça. Donc, il ne peut
Merci.
pas le déchiffrer. Il s'en sert, mais il ne peut pas le déchiffrer. C'est la crise du tour de passe-passe.
Il y a une autre question, madame. Roger.
Bonjour, Mathieu Bernard de DGAMI. Moi, j'avais une question par rapport à ce type de schéma. Donc, on voit qu'on fait des calculs sur des chiffrés. Donc, on a un serveur qui fait des calculs sur des données dont il ne peut pas forcément avoir confiance. Enfin, il ne sait pas du tout le contenu de ces données. Est-ce qu'il y a des travaux un petit peu sur l'intégrité pour s'assurer que. Parce que souvent, dans les chiffrements, lorsqu'on n'a pas d'intégrité, quand on fait du chiffrement sans intégrité, bah, les données sont malléable, les chiffrés est malléable, et il y a souvent des attaques qui permettent de récupérer le clair. Est-ce que dans le contexte du chiffrement homomorphique, il y a des. Enfin, c'est un peu pris en compte.
Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais ces techniques de chiffrement, j'ai peur de dire une bêtise, il faut que j'y réfléchisse un peu. Oui, il y a des travaux qui ont été faits dessus, mais moi je ne suis pas spécialiste de cette partie-là. Ces techniques de chiffrement sont probabilistes et permettent d'atteindre des niveaux de sécurité, d'indistinguabilité sur les chiffrés. Ça, oui. Donc forcément, on a une forme de malléabilité derrière. Néanmoins, jusqu'à quel point elle est exploitable ou pas sur cette technique-là, je ne saurais pas répondre. Enfin, c'est...
Je vous propose de prolonger l'échange lors de la pause tout à l'heure. Et, donc, on va vous féliciter une nouvelle fois.